c'est Gianna Nanni qui finissait sa petite chanson sur un garçon comme toi. Et nous revenons à notre livre XY de l'identité masculine, écrit par Elisabeth Baninter et beaucoup d'autres, comme tu le disais, Evelyne. Et alors, après la description un peu historique de ces différentes crises dont tu viens de nous parler, Evelyne, entrons peut-être dans le vif du sujet. Finalement, quel est le principe de base qu'elle pose? Qu'est-ce qu'elle remet en question au point de départ? C'est la façon dont l'homme est construit? Comment on fabrique un mâle dans notre société aujourd'hui et qui, visiblement, ne peut plus se discuter, s'envisager de la même façon, qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme, mais surtout pour les hommes eux-mêmes?
Oui, c'est surtout la manière dont le système patriarcal a obligé l'homme à se construire. Et ce système patriarcal, il a reçu un coup d'assommoir assez fort avec le développement de la société industrielle. Et il est certainement en train de mourir. Et les femmes, en se redéfinissant, peut-être dû au fait que le système patriarcal avait reçu des coups assez forts, ont obligé les hommes aussi à se redéfinir. Autrefois, comme on le dit en français en tout cas, l'homme, c'est en même temps l'homme avec grand H, c'est-à-dire la référence de base de l'humanité. Donc c'était l'aune à laquelle on mesurait les autres, c'est-à-dire les femmes. L'homme était la référence, donc parfait. La femme, étant son contraire, était nécessairement imparfaite. Bon, tout ça est remis en cause. Alors, évidemment, ils sont eux obligés aussi de se remettre en cause. Et ils se demandent qui ils sont. Après, les femmes qui se sont demandé qu'est-ce que c'est une femme, les hommes aussi se posent la même question au fond, qu'est-ce que c'est qu'un homme? Alors, on leur a dit autrefois, au fond. On leur a parlé avec beaucoup d'impératifs dans le sens « soit un homme et un vrai ». On leur disait aussi, il y avait un troisième impératif que j'avais relevé qui est tellement courant, on lui disait « prouve que tu es un homme ». Alors évidemment, ça montre déjà que les hommes, au fond, on ne dit pas ça aux femmes. Donc que les hommes doivent faire, en tout cas dans le modèle patriarcal, comme on le dit, elle est en train de mourir, doit faire un effort plus spécial que les femmes pour devenir ce qu'ils sont supposés être.
D'ailleurs,
ils ne sont pas au départ.
Ben oui, il y a toutes sortes de rites initiatiques dans beaucoup de civilisations. Bon, en Occident aujourd'hui, plus grand chose, mais quand même, dans la plupart des tribus africaines, etc., on voit bien que l'adolescent doit franchir un certain nombre d'étapes.
Mais là, on est déjà plus loin. Parce que le problème, c'est qu'à la base, les garçons comme les filles, tout le monde le sait, naissent dans un ventre qui est féminin, tous les deux. Bon, pour les filles, elles sont dans un milieu, disons, avec lequel elles pourront rester identifiées, puisqu'elles seront des femmes. Tandis que le petit garçon, qui naît dans ce même ventre féminin, lui devra se différencier, parce que lui, il est un homme, et à un certain moment, il ne pourra plus s'identifier à sa mère, à la première personne probablement qui s'est en général occupée de lui, il devra se différencier, il devra faire un effort de distance. La fille devra aussi le faire, mais plus tard, quand elle voudra simplement différencier, je dirais, son individualité, mais pas son sexe, puisqu'elle est du même que la mère. Donc, il doit faire un effort depuis le début. Et si tu veux parler des rites d'initiation, l'effort, on dit, est d'autant plus grand à faire qu'on a laissé l'enfant plus longtemps en symbiose avec sa mère. Donc, il faudra l'arracher beaucoup plus fortement à sa mère. Donc, et cela se fait par toute une série de rituels qu'on appelle d'initiation. On le fera d'autant plus dramatiquement qu'il a été très très proche au fond de sa mère. Ce qui arrive dans des sociétés, bon, en Nouvelle-Zélande, en Afrique, enfin dans beaucoup d'endroits du monde, où on laisse l'enfant très proche de sa mère pendant 2-3 ans. Le père est même assez éloigné d'ailleurs. C'est l'enfant qui dort avec sa mère et plus le père. Et bon, au bout de 2-3 ans, donc on est obligé de l'arracher très très fort parce qu'il a été très très lié à sa mère. Parce qu'il faut évidemment qu'il se différencie, il faut qu'il se distancie, il faut qu'il devienne un homme et il faut qu'il oublie d'une certaine manière, qui presque à la limite, qui tue symboliquement sa mère. Et ça, c'est là l'origine de tous ces rituels qu'on fait passer aux hommes et pas aux filles. Les filles, au fond, au moment où elles ont leurs premières règles, éventuellement on les isole une à deux semaines, ou bien au moment où on va les marier, on les isole une ou deux semaines pour leur expliquer un certain nombre de choses. Et ça va être la seule époque de leur vie où elles seront dans un milieu exclusivement féminin, disons. Pour le reste, elles sont toujours plus ou moins mélangées avec les hommes. Tandis que les hommes, dans beaucoup de sociétés, plus dans la nôtre, parce que la nôtre a beaucoup changé à cause de l'industrie, dans les autres sociétés, les garçons sont éloignés pendant plusieurs années, quelquefois, de leur mère et des femmes en général. Et c'est comme s'il fallait qu'ils oublient complètement ce milieu féminin du départ, et pour être sûr qu'ils vont être des vrais hommes, pour être sûr qu'ils auront tué d'une certaine manière ou oublié toute la part féminine qu'ils pouvaient avoir en eux-mêmes. Et qu'ils ont quand même, mais ça va être une violence qu'ils vont devoir faire sur eux-mêmes et qui aura des conséquences forcément sur le plan psychologique d'une manière ou d'une autre.
Mais ce qui me frappe dans ce que tu viens de décrire surtout, c'est que apparemment il n'y a aucune preuve entre guillemets naturelle de ce qu'est un homme. Une fille d'emblée est une fille au moment de l'apparition de ses règles et des signes de la maternité. La nature indique tout de suite son sexe. Hein? Un homme n'a pas de particularité à part son physique. Bon, on est d'accord, hein, mais
quand même.
Mais dans sa fonction. Donc, ce qu'il y a de frappant avec les rites dont tu parles et puis tout ce qui va suivre,
c'est pourquoi c'est qu'il y a une construction complètement sociale et culturelle. C'est plus facile peut-être d'être une femme que d'être un homme. Et elle le dit, l'auteur, à quelques moments. Au fond, les femmes se posent moins de questions finalement sur leur féminité que les hommes sur leur masculinité. Comme si elle était plus naturelle, quoi. Et qui avait moins à se poser de questions sur ce sujet. Maintenant, il y a d'autres choses qui sont intéressantes, mais je ne vais pas entrer beaucoup dans les détails, mais qui sont intéressantes et puis qui expliquent un peu le titre du livre aussi, c'est les découvertes génétiques qu'on a faites. Parce que donc la formule chromosomique des hommes, c'est XY, la formule des femmes, c'est X et X. Et je ne vais pas vous dire pourquoi, mais on le voit bien en lisant le livre. Il semble que le chromosome X serait une espèce de base de départ pour tout le monde. Donc là aussi, l'homme, pour devenir homme, il doit changer déjà son chromosome. Il doit faire un XY. Parce que c'est sa première manière, au fond, de se différencier de la base qui semble être X. C'est-à-dire les femmes, au fond. Donc là, il y a déjà le tout premier effort. Et il est dit aussi, par rapport à l'aspect génétique, aussi que il semble que l'embryon mâle est plus vulnérable que l'embryon femelle. Il en meurt plus. Et de même, il meurt aussi plus de petits garçons que de petites filles. Et puis en général, on le sait bien aujourd'hui aussi, c'est dû aussi à la manière dont les hommes vivent, ça c'est clair. Mais les hommes meurent plus jeunes et plus que les femmes. Donc, pour des raisons à la fois génétiques et sociales aussi, ça on le voit dans d'autres parties du livre, où l'image ou la manière dont ils doivent être des hommes leur est des fois carrément fatale. C'est trop fort. J'entends, on leur demande des fois des exercices physiques très forts ou de prendre des risques très forts, du genre, il y a beaucoup plus d'hommes qui ont des accidents de voiture, je dirais d'aventure, de jeunes hommes par exemple, que de femmes. Ils meurent beaucoup plus de conducteurs de voitures de sport, ou enfin de voitures simples, mais qui ont fait de la vitesse, que de femmes. Parce que ça fait partie encore de cette vieille image que l'homme doit relever des défis, doit être fort, il doit faire ce genre de choses. Autrefois, il courait sur son cheval, maintenant il n'y a plus de cheval, alors il court sur la voiture. Mais il prend des risques. C'est un modèle qu'on lui a donné pour se construire, mais qui est dangereux, qui est fatigant et puis qui peut être carrément fatal. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles il ferait mieux de l'abandonner.
Mais d'ailleurs, les femmes, en quelque sorte, ont bien aidé les hommes, en tout cas, à se poser des questions sur cette image, sur ce rôle que la société petit à petit, cette identité petit à petit que la société leur a construit. Et d'ailleurs, Elisabeth Badinter, quand même, le pose comme a priori aussi au point de départ. C'est bien à partir du moment où les femmes aussi ont réfléchi sur ce qu'elles étaient dans la société, ce qu'on avait fait d'elles et leur rôle et leur identité aussi, que forcément a été remis en cause l'identité des hommes. Et du coup, par voie de répercussion, les hommes ont dû se poser la question de qui ils sont, étant remis en cause par les femmes.
Chaque fois, les femmes qui se sont redéfinies, qui ont obligé les hommes à se redéfinir. Comme je disais, à l'époque des précieuses, voilà. Ce sont les précieuses qui ont commencé à poser la question. Oui, ça a été le rôle des femmes, au moins, de les pousser à faire ces analyses. Ces analyses sont difficiles pour eux, sont sûrement douloureuses. Et elle dit quelquefois, cette expression, pour parler de l'homme qui pleure, surtout dans les romans, des romans de jeunes hommes d'aujourd'hui, d'hommes en détresse, qui a de la peine à se trouver, qui a de la peine qui sait quelquefois là où il ne veut plus aller, mais ne sait pas très bien où il veut aller. Alors, on pourrait peut-être parler, pour terminer, des types d'hommes qui nous restent, ou des types d'images qui restent aujourd'hui, auxquels les hommes se rapportent, disons, pour se faire leur identité. Il y a deux grands types qui, comme on va le voir, conduisent plutôt à des impasses, et puis un troisième peut-être qui est celui de demain. Et ces deux types, les manières, ces deux définitions qu'on a, qui sont celles de l'homme neutre ou l'homme dur et l'homme mou, nous viennent d'ailleurs des pays nordiques de l'Europe. L'homme neutre, je crois que c'est une expression qui est venue d'abord du danois. Et c'est au fond cet homme mutilé qui a été préparé par le système patriarcal et qui doit incarner toutes ces valeurs que nous, personnellement, en tout cas ici, nous ne partageons pas, de cet homme macho, enfin, qui doit être invulnérable, qui doit être qui doit être fort, qui doit être qui pleure jamais, qui doit tout réussir dans la vie, etc. Et qui a justement, c'est un homme qui a abandonné toute sa composante féminine, disons, qu'il a en lui-même, mais qui la rejette, la refoule complètement. Et cet homme qui souvent n'arrive pas à être à la hauteur de ce modèle. Évidemment, c'est un modèle vraiment difficile. Et donc, comme il n'arrive pas à être à la hauteur, il se sent d'une certaine manière inachevé. Et donc, il va vers une sorte d'impasse. Ça, c'est l'homme dur, l'homme neutre. Puis d'un autre côté, on a ce nouvel homme qu'elles ont qualifié, les Suédoises, d'homme mou, qui est cet homme qui est souvent le compagnon d'une femme. Comment je vais la qualifier, d'une femme...
Comment Rosa Luxembourg ?
Féministe, ou d'une femme émancipée, enfin d'une femme d'aujourd'hui qui n'accepte en tout cas pas cette condition de femme passive et...
Soumise
et seulement mère de famille ou je sais pas quoi à la maison. Et alors souvent cet homme mou, c'est le compagnon de cette femme. D'ailleurs c'est curieux, c'est au moment même où les femmes ont réclamé un homme plus doux, qu'elles-mêmes, elles ont voulu devenir des battantes. Hein. C'est un peu contradictoire, au fond. Et elles ont ce type de compagnon, souvent. Et ce type de compagnon n'est pas très satisfait, finalement. Il commence à sortir des études là-dessus. Ça fait partie des men's studies. Après les women's studies, on a les men's studies maintenant, qui sont d'ailleurs assez développés déjà dans certains pays. Et on voit dans ces études que beaucoup de ces hommes ne sont pas contents non plus. Ils se sentent aussi inachevés parce que ceux-là, les premiers, ils avaient perdu leur partie féminine, et ceux-ci, c'est comme un peu s'ils avaient perdu leur partie masculine. On les empêche de virilité, comme elle dit. Ils sont empêchés de virilité. Souvent, les premiers, les durs, etc., ils ont été empêchés de paternité, d'une certaine manière, par la société, ou parce qu'eux-mêmes n'ont pas voulu y participer à l'éducation de leurs enfants. Et puis les nouveaux, ils participent à l'éducation des enfants, mais ils devraient le faire au fond comme une femme. Et c'est pas la solution non plus, puisque
les papas
sont
poules,
des hommes. Et donc ceux-là, c'est pas non plus un modèle qui est satisfaisant. Et c'est souvent un modèle d'homme qui finit par refuser les responsabilités, qui ne veut pas vraiment grandir, style un peu Peter Pan ou Le Petit Prince ou un personnage de roman qui est assez célèbre aux États-Unis qui s'appelle le Flying Boy, qui au fond refuse les responsabilités. Alors on arrive comment aux deux impasses? Alors qu'est-ce qu'on fait? Oui. Où est le... Alors il est question d'un troisième homme qu'elle appelle comme ça le gentleman. En deux mots.
L'homme doux, l'homme gentil.
Au fond, qui est un homme qui saurait allier solidité et sensibilité. Elle dit aussi un homme qui aurait accepté son héritage paternel et maternel, sa part masculine, sa part féminine, qui aurait retrouvé son père et sa mère, qui pourrait être un homme sans blesser sa partie... Oui, sa partie féminine, d'une certaine manière. Et évidemment, elle dit, un homme comme ça, il ne peut naître que d'une grande révolution paternelle. Donc, il faut absolument un homme qui s'occupe de ses enfants. Ça viendra d'une transformation dans nos mentalités, ça viendra d'une transformation dans nos conditions de vie privée et professionnelle aussi, bien sûr.
Et est-ce que c'est là qu'elle met en avant l'image qu'elle avait déjà essayé de rendre dans l'un et l'autre, l'image de l'androgynie? Est-ce que l'avenir est à ne devenir à la fois homme et femme, femme et homme?
Non, pas vraiment, parce que elle dit oui, peut-être que les parents, le père et la mère, auront des rôles très semblables pour l'enfant, mais il restera des différences subtiles, comme elle les appelle. Et elle dit que dans toutes les familles qu'on a observées, où il y a ce type de parents avec leurs enfants, les enfants ne s'y trompent pas. Les enfants savent très bien faire la différence entre le père et la mère, et savent sentir, si tu veux, ces différences très subtiles qu'il y a entre les deux personnes, même si tous les deux font la vaisselle, tous les deux vont au jardin d'enfants, tous les deux racontent les histoires, tous les deux vont chercher faire les courses et puis apportent de l'argent sur le compte de chèque, etc. Il reste des différences pour les enfants quand ils perçoivent leurs parents. Et d'ailleurs, les deux parents continuent, même s'ils s'occupent tous les deux des enfants, ils ne s'occupent pas de la même manière. Dans beaucoup de... On ne peut pas entrer dans les détails, on n'a pas le temps ici, mais dans la manière de prendre les enfants, de toucher les enfants, de jouer avec les enfants, dans beaucoup de choses, il y a des différences qui subsistent. Et au fond, c'est là que... C'est ce qui est important, apparemment, pour elle. Bon, un problème qu'elle voit, c'est qu'il y a des mères qui résistent, c'est-à-dire qui ne sont pas encore disposées à partager. Ça, c'est un autre problème. À partager le maternage. Bien que les hommes qui le veulent sont aussi habiles que les femmes pour le faire. Mais il y a des femmes qui ont de la peine à accepter ce partage. Et, bon... De nouveau, on n'a pas trop le temps d'entrer en détail pour voir pourquoi. Hein, il y a des raisons, évidemment. Bon, écoute, je vais terminer avec une des dernières phrases du livre, je crois. Bon, on peut encore, si tu as des autres questions, en parler après. Elle nous dit, voilà, au fond, on a ce qu'on pourrait appeler les vertus masculines, qui sont pas l'apanage des hommes, mais j'entends masculine entre guillemets, qui serait la maîtrise de soi, la volonté de se surpasser, le goût du risque et du défi, la résistance à l'oppression. puis les vertus dites féminines, de nouveau qui ne sont pas l'apanage des femmes, hein, qui seraient plutôt l'accord avec la nature, la conservation de la vie, une certaine, je dirais, passivité, non, parce que ça a une connotation un petit peu négative, mais une certaine douceur, je dirais. Et elle dit, bon, on a ces deux types de vertus, elle dit, les deux sont nécessaires. Les unes conservent le monde et les autres en font reculer les limites. Et ça, je trouvais très bien. Tu vois, c'est vrai, il y a quand même deux grands genres de vertus, de manières d'agir sur le monde. Et il nous faut les deux.
De toute évidence, Evelyne, tu as été fort convaincue par la façon dont Elisabeth Badinter a su faire un peu le tour d'horizon de ce qu'a été et ce que peut-être va devenir l'identité masculine. Est-ce que j'ai bien senti ton sentiment à propos de ce livre? Parce que c'est vrai qu'elle est assez controversée quand même, Elisabeth Badinter. Alors, quel poids tu donnes à ces controverses par rapport à ce que toi t'as ressenti en lisant ce livre?
Moi, j'ai retrouvé des situations que j'ai vécues. Donc, celles-là me paraissent, quand ces remarques rejoignent des situations que j'ai vécues, ben, ces remarques me paraissent justes, forcément. Et tout ce qu'elle dit par rapport au le background, disons, anthropologique, que je connais assez bien, est juste, et je le trouve assez bien interprété aussi. Maintenant, tout ce qui a à voir avec l'avenir, c'est très difficile d'en parler et de l'imaginer. Mais je crois que la crise, il y a. Ça, je suis sûre. Et bon, il y a remise en question de la part de certains hommes. Il y en a qui sont moins en crise. Évidemment, ceux qui ne se remettent pas en question, pour eux, tout est peut-être plus facile. Quand même au prix peut-être de certaines difficultés psychologiques, et on peut s'expliquer peut-être, je sais pas moi, certains alcoolismes et d'autres choses comme des exutoires à des problèmes psychologiques qui sont pas bien élucidés chez les hommes, chez les femmes aussi, mais puisqu'aujourd'hui on parle des hommes, j'en fais référence par rapport aux hommes. C'est ce que je peux te dire. Moi, la seule chose qui m'a gênée un petit peu, c'est que elle s'approprie peut-être un petit peu trop sous son nom de beaucoup de travaux dont le mérite revient à d'autres. Bon, elle les cite, j'ai dit, c'est vrai, mais elle est plutôt, un espèce de porte-voix. C'est comme ça que je la vois. Elle nous fait le plaisir, disons, de nous apporter des travaux qui sont souvent pas traduits, même, et qui sont donc pas lus par la grande partie de la population ici. Et puis elle nous en parle. Et bon, ça, c'est un petit peu son mérite.
Est-ce que, d'après toi, dernière question, Evelyne, ce livre vraiment permet à l'homme de se découvrir lui-même, peut-être d'une certaine façon? Ça l'aide à mieux comprendre qui il est et les questions qu'il devrait se poser. De même, est-ce qu'il aide les femmes à mieux comprendre les hommes?
Oui, je vais répondre à ça, oui. Moi, absolument. Moi, ça m'a appris beaucoup de choses sur les hommes. Et bon, moi, de toute façon, j'ai beaucoup de sympathie pour eux, mais j'ai une sympathie presque une empathie en lisant le livre. Et bon, je sais pas comment les hommes, il faudra. Je vais l'offrir à un homme pour qu'il le lise, pour avoir les réactions qu'il a lui-même. Je peux pas répondre pour eux, mais dans mon cas, oui, ça m'a éclairé sur certaines manières d'être que je ne comprenais pas.
Est-ce que tu sais si, à la librairie, par exemple, ce sont surtout des femmes qui viennent acheter XY, ou bien si on voit aussi des hommes acheter ce livre?
Écoute, on en a beaucoup vendu au cours de la, les 80 ans du journal Femmes Suisses.
Voilà, puisqu'elle était
invitée. Mais comme elle avait beaucoup, beaucoup d'invités qui étaient des femmes, on l'a beaucoup vendu à des femmes. Hein. On en a vendu 80 exemplaires ce soir-là, mais aussi à quelques hommes, oui. À la librairie, c'est plutôt des femmes qui viennent de toute façon. Mais moi, j'ai déjà plusieurs candidats à qui je vais l'offrir. Je sais pas si, j'espère qu'ils le liront. Entre autres, mon fils, tu vois, je vais l'offrir à mon fils.
Quelle bonne idée. Mais c'est vrai que ce serait intéressant de savoir ce que les hommes découvrent lorsqu'ils lisent un livre comme celui-là. Hein, parce que c'est bizarre de se voir décrit soi-même et de faire la comparaison avec son vécu. Alors, en conclusion de notre émission, je crois que nous allons rappeler à nos auditrices et à nos auditeurs le titre des deux livres que nous avons abordés, mais je crois qu'ils vont difficilement oublier. Une biographie de Rosa Luxembourg, Annette, écrite
par Max Gallo, dont le titre exact est « Une femme rebelle, vie et mort de Rosa Luxembourg ».
Aux presses de la Renaissance,
publiée. Aux presses de la Renaissance, oui.
Et puis, alors... XY.
De l'identité masculine, écrit par Elisabeth Badinter, aux éditions Odile Jacob.
Et puis rappelons-le bien évidemment que vous trouverez tous les deux, ces deux livres, à la librairie des femmes L'Inédite à Genève. Comme de coutume, on rappelle rapidement les heures d'ouverture, histoire si jamais nos auditrices ou auditeurs auraient oublié. Et même si c'est surtout des femmes qui vont acheter des livres à L'Inédite, messieurs, n'hésitez pas, vous pouvez aussi découvrir beaucoup de choses à la librairie L'Inédite.
On l'espère bien qu'on aura des visites. Donc les heures d'ouverture de 9h à midi, tous les jours sauf le lundi. Par contre, le samedi, c'est ouvert de 10h à 13h et tous les après-midi de 14h à 18h30.
Et c'est à la rue du Cardinal Mermillot à Carouge, Genève. Et pour terminer, bien, je vous propose une chanson écrite par Danny Klein qui est l'égérie de Vaya con Dios. Et le titre de la chanson, c'est « Still a man, c'est toujours un homme ». Sur quelques paroles, je vous traduirai quelques-unes de ces phrases. Je crois que ça vaut la peine. Vaya con Dios, Danny Klein.
Call him anything you can. A sinner or a saint. Call him a boozer. A winner or a loser. He is still a man. He may be proud, he may be vain.
Appelez-le ce que vous pouvez, dites-lui que c'est un homme qui commet des péchés ou que c'est un saint, appelez-le un soulographe, un gagnant, un perdant, ce sera toujours un homme. Il peut être fier, il peut être nul, il peut être un empereur ou un esclave, il peut être un meneur, il peut être un menteur, mais il sera toujours un homme. Appelez-le ce que vous voulez, un traître, un ami, appelez-le héros, appelez-le rien du tout, un zéro, il sera toujours un homme. Appelez-le un héros, appelez-le un zéro, il sera toujours un homme. Il sera toujours un homme qui fait ce qu'il peut le mieux possible, il est juste un homme, il n'est qu'un homme. Vaya con Dios, Danny Klein.
A traitor. Call him a hero. Nothing or a zero. Traitor or afraid, call him a hero. nothing or a zero. You're still a man. Call him a hero. Nothing or a zero. You're still a man. He's just a man. Who does the best he can? He's just a man. He's nothing but a man.
Aujourd'hui, c'est la fin de Remue Ménage et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Nous aurons en direct dans notre studio Madame Fontaine de l'association Assuas qui viendra nous parler du problème de l'augmentation des assurances maladies, de la nouvelle loi sur les assurances maladies. Alors, si jamais vous savez que vous pouvez nous appeler en direct lors de l'émission pour poser toutes les questions que vous voudrez à Madame Fontaine, je vous donne déjà notre numéro de téléphone. C'est le 50 40 51 41, je répète le 50 40 51 41 023 si vous appelez depuis Genève, 00 33 depuis le canton de Vaud voisin. Alors n'hésitez pas, Madame Fontaine est une spécialiste de la question. Elle vous propose une remise en cause des augmentations, un refus de payer les augmentations des assurances maladies, vous expliquera ce que vous risquez, ce que vous gagnez, ce que vous perdez en changeant de situation. Alors préparez toutes vos questions et n'hésitez pas à nous appeler la semaine prochaine, mercredi de 17h à 18h30 en direct dans